BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de l'association de la semaine. Et cette semaine, je reçois l'association La Gerbe, située à Écquevilly, et son directeur Jean-Marc Sémoulin. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Oui, alors l'association est basée dans la zone industrielle d'Écquevilly. C'est une structure, on pourrait presque croire que c'est une entreprise. Quand on arrive, en fait, il y a 3000 m² de bâtiments. Et on a trois grands pôles. Donc, un peu de manière historique, on a commencé par la partie humanitaire, avec donc surtout de l'aide dans les pays de l'Est, en fait, principalement. On avait commencé en premier convoi en juin 1993, l'ex-Yougoslavie qui explose, et depuis juin 1993 est parti un camion tous les 2 mois, et aujourd'hui on est à un camion tous les mois. Ce printemps, même pour l'Ukraine, on était à un par semaine, en fait, un semi-remorque par semaine. Donc ça, c'est la première axe, la partie humanitaire. Pour réaliser tout cela, on a un chantier d'insertion, donc 40 salariés en insertion, donc des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, souvent au RSA, qu'on va salarier chez nous pendant une période de 6 mois à 2 ans maximum. Et l'objectif, c'est qu'après cette période d'emploi, ils puissent être en capacité de retrouver un emploi dans une entreprise normale. Donc on a tout cet accompagnement, et pour ça on est 12 permanents en fait qui gérions l'ensemble des parties. Et puis on est une ressourcerie, donc une ressourcerie c'est un peu avant une déchetterie, comment on peut ne pas jeter les choses dont on ne veut plus et qui sont pourtant utilisables, pour être remis en état. Donc une partie va partir en humanitaire et l'autre partie va être vendue dans un magasin accessible à tous et qui va permettre de financer la structure.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ?
Alors pour moi, ce qui m'a vraiment mis en route, c'était la guerre en ex-Yougoslavie, de voir ces images à télévision, de voir que c'était proche. Alors on a quasiment les mêmes images aujourd'hui avec l'Ukraine. Et voilà, j'avais 21 ans et de me dire, mais en fait, je regardais tout le monde et en fait, comme aujourd'hui, en gros, on voit ces infos parfois même à table quand on est en train de manger, puis c'est de l'info en fait. Et là, c'était de dire, mais c'est pas possible d'avoir ces personnes-là qui sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'avais appelé plein d'ONG pour partir, j'avais pu passer mon permis poids lourd à l'armée. En leur disant, j'ai mon permis poids lourd, est-ce que je peux partir avec vous ? Et la plupart des structures m'avaient dit, non, pas pour faire un voyage, c'est pas possible, il faudrait vous engager pour plus longtemps, et sinon vous pouvez nous faire un chèque. Mais j'étais étudiant, j'avais pas forcément d'argent, voilà, et j'ai trouvé des agriculteurs dans le sud de la France qui emmenaient leur surplus de marchandises, et qui pour me dire non, m'ont dit, bah écoutez, d'accord, vous trouvez un poids lourd, vous le remplissez et nous on fera les papiers de douane pour vous mettre dans le convoi. Eux pensaient m'avoir dit non et moi j'étais tout content, ça y est, je pouvais enfin partir. Et donc je suis parti avec eux en ayant trouvé un camion de la région parisienne. Et de ce premier départ, en fait, voilà, la fois d'après, 2 mois après, ils m'ont expliqué en me disant, bah écoute, on va t'apprendre à faire les papiers parce que le prochain coup, il faudra que tu fasses tout seul.
Donc vous avez appris sur le tas ?
Voilà, sans imaginer du tout que 30 ans plus tard, on continuerait encore, qu'il y aurait plus de 50 salariés dans la structure. Et voilà, cette aide qui, de Bosnie, on est passé aussi en Roumanie. En Roumanie, j'avais eu un contact avec une personne qui, à l'époque, en gros, disait qu'elle arrivait à économiser sur son petit salaire 10 francs. À l'époque, 10 francs par mois. Et avec ces 10 francs par mois, elle avait monté une ONG pour aider les personnes pauvres de son village. Et ça m'a tellement choqué et surpris que j'ai pris ma voiture, j'ai été voir et j'ai été vraiment impressionné du travail qu'il faisait avec ces 10 francs par mois. Et du coup, on a commencé de soutenir donc chaque fois en fait, des structures locales déjà engagées avant qu'on arrive et qui nous impressionnent beaucoup. Voilà, on a plein d'exemples comme ça. On en a un autre en RDC, par exemple, où c'est un docteur qui est venu se former en France, qui a même été sollicité parce que c'était un spécialiste qui... Voilà, on en cherche en France, donc on fait de l'appel de pied. Et donc pour un médecin qui vient voilà, de RDC, du centre du pays, enfin là, sa vie entre retourner vraiment dans la brousse, dans des conditions effroyables même, et puis de proposer un poste en France, enfin la tentation peut être très forte, mais voilà, tout son village s'était mobilisé, avait financé ses études, donc il est retourné, et on l'a aidé à monter un hôpital, donc en pleine brousse, il est sur une région grande comme l'Île-de-France, le seul spécialiste en plein centre de RDC avec des femmes, donc il répare les femmes qui ont, voilà, malheureusement avec cette arme de guerre du viol, et des fois, enfin c'est arrivé plusieurs fois, en moyenne c'est 200 à 300 km à pied pour venir, voilà, et avec certaines qui ont fait jusqu'à 700 km à pied, donc avec des porteurs, les porteurs sont autant abîmés que la personne qu'ils portent, voilà, et aujourd'hui ils ont monté un centre, un hôpital. C'est très compliqué de trouver des médecins, donc ils ont monté une faculté avec la formation du personnel, en fait, avec tout le système aussi informatique et internet, qui permet aussi d'avoir des grands spécialistes qui interviennent dans leurs cours, voilà, et puis on les soutient après, on en parlera plus tard sur la course HOP, mais sur un projet aussi pour des étudiants. Enfin voilà, chaque fois c'est des personnes qui nous bouleversent. On essaye de ne plus prendre de partenaires parce que on est déjà voilà, très, très chargé. Et en même temps, quand on est face à des personnes comme ça, pour amener le matériel, par exemple, on prépare un conteneur qui part. Ensuite, ce conteneur est chargé dans un camion, il est amené sur une barge, il remonte le fleuve et tout à la fin, il termine avec 100 km en vélo. Donc, il charge les lits, les blocs, tout ce qu'on a emmené comme matériel médical. Donc, ils font une montagne sur le vélo. Donc, ils ne peuvent pas être sur le vélo. Ils vont pousser le vélo à pied à travers la brousse pendant 100 km. Voilà. Et ils vont, tout le chargement du conteneur va arriver comme ça sur l'hôpital. On ne sait même pas comment c'est possible. Du coup, il y a 4 ans de ça, on avait fait une marche pour les femmes en RDC dans les Yvelines. Donc, on avait, pour voir ce que ça faisait, en fait, on l'avait fait en 4 jours. Donc, on avait chargé un vélo d'un lit avec une montagne de choses dessus. Et on avait fait 100 km. Donc, en allant jusqu'à Rambouillet, donc en partant d'Écquevilly, en venant jusqu'à Mantes. Et en passant jusqu'à Rambouillet, on avait fait un peu de forêt aussi dans Rambouillet, en revenant voilà, par Versailles, et du coup on l'avait fait en 4 jours pour voir ce que ça faisait, voilà. Et puis 2 ans plus tard, on l'a refait du coup en 24 heures, en fait, enfin sans non-stop, du coup avec des relais, voilà, et juste c'était vraiment très formateur aussi de réfléchir et de voir ce que ça fait, en fait, de vivre des conditions pareilles. On parle beaucoup en France de l'hôpital qui va mal, mais là, voilà, on relativise beaucoup en voyant des personnes comme ça qui en veulent à ce point et qui transforment leur pays comme ça.
Vous aidez de nombreux pays de cette façon ? Dans combien de pays vous intervenez ?
Alors, un peu sur l'Albanie. On intervient, enfin, donc chaque fois on aide une structure sur place, Roumanie et Ukraine.
En Ukraine, justement, vous nous disiez, donc de nombreux camions sont déjà partis.
Voilà, en général on ne va pas sur les pays en guerre, enfin, là on n'a pas de raison d'aller en Turquie par exemple. Alors tout le monde dit qu'est-ce que vous faites pour la Turquie, mais en fait on n'est pas une ONG d'urgence. Par contre, quand on a un contact et qu'il se passe une situation grave dans le pays, on avait eu ça en Albanie en 97 par exemple, où le pays s'est effondré et c'était l'anarchie totale, on n'abandonne pas en fait nos partenaires. Donc on s'est retrouvé plusieurs fois en zone de guerre, en fait, mais parce que on travaillait déjà. Et en Ukraine, c'est exactement le cas. On était déjà en Ukraine. En 2014, il y a eu la première zone avec le Donbass. Et on a continué d'intervenir et d'amener des marchandises dans le Donbass. Et puis, du coup, ensuite, on a continué le lendemain même de l'invasion. Il y avait déjà un camion qui était prévu et donc qui a pu partir directement. Et puis, en Ukraine, on arrive maintenant à presque avoir une dizaine de partenaires, donc on est vraiment un peu partout dans l'Ukraine, et jusque dès qu'une ville se libère ou comme ça, on peut arriver jusqu'au bord du front, en fait, pour amener des marchandises.
Comment le lien se crée avec les partenaires?
Alors, donc, normalement, on essaye de ne pas en avoir de nouveaux, mais en fait, très souvent, on a des partenaires de confiance, donc on visite régulièrement. Et très souvent, eux vont nous dire, quand on fait le tour avec eux de voir comment ils ont utilisé l'aide, et bien du coup, ils vont nous emmener voir une autre structure en disant, on les a soutenus. Et puis là, on va découvrir cette structure-là, on va voir le travail qu'ils font. Et qu'ils ont peut-être un besoin spécifique de lit ou de... Voilà, suivant ce que c'est un orphelinat, ça peut être du matériel, enfin, des choses un peu spécifiques. Et on est toujours, en fait, nous, à essayer de trouver le matériel dont ils ont besoin et pas leur amener des choses parce qu'on les a. Donc, on a une liste de matériel disponible qu'on transmet à nos partenaires et ils choisissent ce dont ils ont besoin. L'idée n'est pas d'envoyer ce que nous ne voulons plus ici, mais bien de répondre à des besoins.
Justement, vous expliquiez... aussi que l'idée est d'utiliser une partie et redistribuer le reste.
Voilà, donc sur ce qui ne va pas être pris ou qui ne les intéresse pas forcément, ou aussi sur du matériel, on a parfois des meubles avec beaucoup de vitres ou comme ça, donc des choses, on reçoit aussi de la brocante. En fait, quand on vit d'une maison, on va avoir plein d'objets qui ne sont pas forcément utiles pour de l'aide humanitaire. Donc tous ces objets-là vont être remis en vente. Donc on a un magasin de seconde main, donc c'est un grand espace, un peu comme un Emmaüs. On essaye de présenter un petit peu plus comme un magasin, en fait, puisque pour nous, le public en insertion qui travaille dedans, peut-être va travailler dans un magasin demain. Donc c'est pas juste j'empile le matériel, c'est comment je le présente, comment c'est propre, en fait, il y a du nettoyage avant chaque vente. Et comment on peut avoir aussi bien des gens de Versailles, de Paris qui viennent que des personnes de la cité à côté. On a vraiment les deux, un mixage de public très fort avec la possibilité de trouver du meuble de qualité, pas accessible, et puis des pièces un peu de collection ou de, voilà, qui vont intéresser plutôt des brocanteurs ou des spécialistes.
Comment vous récoltez que ce soit ce que vous envoyez, mais aussi ce que vous revendez dans votre sourcerie?
Alors, c'est beaucoup de bouche à oreille, en fait. N'importe qui peut venir déposer quelque chose, s'il a des choses qu'il ne veut plus et qui peuvent servir. Et puis nous, on va tourner avec deux camions sur un rayon de 15-20 km pour venir chercher. Donc, on ne vient pas jusqu'à Mantes, puisque à Mantes, il y a une autre sourcerie qui s'appelle Aptima. Donc, chacun respecte un petit peu son territoire. Et si quelqu'un nous appelle, on va renvoyer sur cette ressourcerie-là, puisque voilà, par territoire, on essaye de fonctionner. Pour donner un peu une idée, par jour, on collecte en moyenne 3 tonnes de marchandises. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes. Ensuite, on a 40 salariés en insertion, donc ils vont aider dans les camions qui vont tourner pour les collecter chez les gens. On a ensuite, tout va être repris, en fait, ouvert, tous les vêtements, on va vérifier fermeture éclair, c'est des boutons, donc ça c'est énormément de travail. Après, être remis en carton, mais par catégorie, c'est-à-dire que si on va dans un orphelinat, on va amener des cartons d'enfants et pas du vêtement, et du carton aussi par saison, parce que si on amène, là par exemple, si c'était la Turquie et qu'on amène des choses d'été, ça sert à rien, donc ça va être jeté. Donc plus on va être précis dans notre tri, plus l'aide va être utilisée à 100%, que sinon, en cas de crise, on ne va pas pouvoir stocker et garder. Donc ça, c'est très important, tout ce tri-là. Mais 3 tonnes, c'est la moyenne, donc il y a eu des jours, on a fait 7 tonnes, et en fait, il faut être en capacité de tout trier dans la journée, parce que le lendemain arrive la même quantité, et si jamais on s'est laissé avoir et qu'il y en a plein dans les allées, après on ne peut plus bouger... Voilà, donc ça oblige en fait à un rythme pour pouvoir traiter et pouvoir fonctionner comme ça. Mais un semi-remorque par mois, ça c'est le cycle normal, c'est aussi 120 mètres cubes de marchandises. Donc c'est des gros volumes qui partent tous les mois. Et puis pendant l'Ukraine, tout le printemps, où on tournait en 2022 jusqu'au mois de juillet, on était à un semi-remorque par semaine. Là, on a pu récupérer beaucoup de marchandises, des collectes qui avaient été faites dans les mairies. Là, il y a eu énormément de travail, de remise en carton et tout ça. Et on a emmené là beaucoup d'alimentaires, de produits d'hygiène aussi, qu'on n'a pas habituellement, en fait.
Et là, vous participez aussi à un autre événement qui est Hope 360.
Alors, c'est une course qui est organisée par ASA, qui est un collectif d'ONG, et donc il y a une trentaine d'associations sur cette course. Le défi un peu fou, c'est d'aller sur la Lune à pied. Donc ça peut paraître impossible, et alors le défi est toujours là. L'idée, c'est, donc ça a commencé le 1er janvier, et ça se terminera le 15 avril. L'idée, c'est que tous les jours, donc n'importe qui peut aller sur le site Hope360, choisir une des 30 ONG. Donc vous pouvez bien sûr choisir la Gerbe et ce beau projet en RDC, mais tous les projets en fait sont magnifiques. On ne choisit pas une association, on choisit plutôt un projet en fait. On se présente par projet, puis après on voit quelle association le fait. Et tous les jours en fait, avec mon appli, tout le monde a une appli de podomètre ou de marche ou de course, on vient mettre les kilomètres que l'on a fait, donc soit à pied, soit en courant, soit en vélo, voilà, sans moteur. Ça peut être à la nage, ça peut être à la voile, ça peut être au ski, là ça va bientôt être les vacances d'hiver, donc le ski ça marche aussi. Et voilà, je viens rentrer ces kilomètres-là, et puis comme c'est quand même une course pour collecter des fonds, l'idée un petit peu c'est de dire autour de soi, je suis en train d'aller sur la Lune à pied, donc ça fait toujours son petit effet, et d'encourager d'autres personnes à s'inscrire. L'inscription coûte 14 euros, et dans les 14 euros, il y a 5 euros qui vont directement au projet. Donc déjà chaque fois qu'on embarque un nouveau hopper, puisque c'est le mot choisi un peu, dès qu'on embarque un nouveau hopper, il y a déjà 5 euros qui vont sur le projet. Et puis quand quelqu'un dit « j'ai pas trop envie », là on lui dit « écoute, si tu veux, tu peux soutenir ma campagne, chacun a une page de collecte, et moi je transforme ton don en kilomètres. Et voilà, tu peux me faire courir, je m'engage à faire le nombre de kilomètres de la somme que tu mettras sur ma page. » Et du coup, on fait arriver comme ça des fonds pour le projet.
Les fonds, c'est un peu le nerf de la guerre, en règle générale, pour les associations, bien sûr. Comment faites-vous pour en récolter ?
Alors, dans le fonctionnement, en fait, pour la ressourcerie, très souvent, les personnes vont connaître l'association La Germe par le magasin. C'est souvent comme ça qu'on nous découvre. Ensuite, quand ils arrivent au magasin, ils découvrent qu'en fait, c'est plus qu'un magasin et qu'on collecte aussi des marchandises. Et très souvent, ils vont nous apporter leurs vêtements ou voilà, des marchandises. Et souvent, ils apportent plus que ce qu'ils ont acheté. Donc au fur et à mesure, c'est ce qui nous permet d'augmenter aussi l'aide humanitaire. Et puis, on a un petit journal qui s'appelle Espérance. Et puis, dans la ressourcerie, on a aussi un vidéo pro qui projette sur les projets. Donc là, les gens vont découvrir en fait, que même quand ils achètent ou comme ça, en fait, c'est beaucoup plus grand en fait, ce qui est en train de se passer là. Et donc, en général, au bout d'un an ou deux, les personnes commencent à faire des dons parce qu'elles découvrent l'œuvre qu'on fait, ce qui se passe derrière. Et du coup, ça, au bout d'un certain temps, quand les gens connaissent, en fait, ils deviennent donateurs.
Comment peut-on faire justement pour vous donner des choses, que ce soit des objets ou visiblement ou des vêtements ?
Alors, du coup, on est ouvert tous les jours de 8h30 du matin jusqu'à 17h. Et on peut venir déposer donc aux 13 rue des Fontenelles à Écuvilly. Et le samedi matin, de 10h à 13h. Donc ça, c'est pour la partie dépôt de marchandises. Et puis le magasin, lui, va être ouvert le mardi, mercredi, jeudi après-midi. Donc de 14h à 17h. Et puis le samedi matin, de 10h à 13h. Donc ça, on retrouve tout ça sur La Gerbe, c'est facile à se rappeler, lagerbe.org.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ?
Alors, de ne plus avoir de travail, ça serait, ça serait très bien. Mais oui, de pouvoir rester, nous, dans notre projet, c'est toujours l'humain qui est au centre. Et en fait, on est sur des projets qui demandent beaucoup d'énergie et parfois de réponse, enfin là comme sur l'Ukraine, et donc c'est toujours comment on reste donc disponible pour pouvoir répondre à un besoin qui devient urgent et très fort, et puis comment on reste disponible pour les personnes en insertion qui sont là et qui sont elles aussi en difficulté. Donc c'est toujours ce mix entre le projet qui est très prenant et qui demande beaucoup d'attention et d'énergie, et en même temps toujours de rester ouvert en fait à la personne qui, c'est ça le but en fait, toujours. Donc comment la personne reste au centre en permanence du projet.
Merci, merci d'avoir suivi notre émission. Jean-Marc Timoulin, merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com.